Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Alors, avant de commencer, on va juste se remettre au Seigneur.
Père,
merci que tu es le grand Dieu. Tu es le Dieu souverain, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu qui est au ciel, qui fait ce qu'il veut, Seigneur Dieu. Puis on ne veut pas oublier que tu es au ciel et que tu fais ce que tu veux. Merci pour tes bontés, merci pour tes grâces, merci pour ta miséricorde, Seigneur Dieu. Dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, il y a un thème qui court à travers l'Écriture, qui lit, comme un faux fil qui tient tout un ensemble ensemble. Hein? Il y a un thème qui, dans l'Écriture, fait le tour et qui va vraiment du début à la fin. Présenter ce que Dieu apprécie particulièrement chez l'être humain. Ou en tout cas, quelque chose que Dieu veut, hein, veut voir, veut retrouver chez l'être humain. Et en lisant les évangiles, et en particulier l'évangile de Luc, cette semaine, j'ai vu quelques anecdotes qui se suivent dans Luc 18 et qui nous présentent en quelques anecdotes, ce principe-là. On va les lire, après ça, je vais vous parler du principe, puis après ça, on va pouvoir peut-être mieux le comprendre de ce que je veux parler. Au chapitre 18 de l'Évangile de Luc, je vous inviterai à tourner là, s'il vous plaît. Et à partir du verset 9, on voit Jésus raconter l'anecdote d'un pharisien et d'un publicain qui sont tous les deux dans le temple et qui, tous les deux, vont prier le Seigneur. Ils vont adresser des prières à Dieu. Et là, on va voir la comparaison entre, d'une part, le pharisien et, d'autre part, le publicain. Et on va lire ça ensemble. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait et ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera relevé. On continue. Là, il y a l'anecdote des petits-enfants qui veulent venir voir le Seigneur. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Et là, il y a le jeune homme riche. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point une faux témoignage, honore ton père et ta mère. Il dit, j'ai dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. On va passer au verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Alors, quelques anecdotes qui se suivent et ont toutes un même thème. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera relevé. Le jeune homme riche, plein de richesses, j'ai tout fait ça. Mais il dit, vends tout, puis suis-moi. Celui qui n'a rien, qui est aveugle, qui ne voit même pas, il est au bord de la route, il est mendiant. Il crie, « Fils de David, sauve-moi. » Les petits-enfants viennent. « Viens, laissez-les venir. » Les humbles. Et ce thème-là qui suit, qu'on voit dans toute l'Écriture, c'est justement que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Dieu cherche quelqu'un qui a un cœur contrit, qui réalise qu'il n'y a rien à offrir, mais qu'effectivement, Dieu est le Tout-Puissant, que Dieu est le Souverain, que Dieu est celui qui règne, et que je n'ai pas peur d'accepter cette souveraineté et de réaliser ou de confesser que je n'ai rien en moi qui puisse plaire réellement à Dieu. Alors, je peux faire des bonnes choses. Et il y a plein de bonnes choses que je fais qui plaisent au Seigneur. Quand je fais du bien à quelqu'un, quand je donne de l'argent à une œuvre de charité, quand j'use de bienveillance envers quelqu'un, ça des bonnes choses. Dieu est content de ça. C'est pas bon. Le bien ne devient pas mal parce que je le fais. Par contre, ma vie, il n'y a personne, on va dire l'Ecclésiaste, personne qui fasse toujours le bien ne pèche jamais. Ça, c'est nous autres. Romains 3 l'explique au complet. Il n'y a pas de justes qui sont toujours justes, qui sont toujours bons, qui sont toujours intelligents, qui cherchent toujours Dieu. Il n'y en a pas de ça. On est tous déchus de la gloire de Dieu. Ça, c'est la réalité, ça, c'est le fait. L'humilité va reconnaître le fait. L'humilité, c'est de dire oui. Et Dieu cherche l'humilité, à tel point, que dans les psaumes, psaume 18, verset 28, la parole de Dieu dit, « Tu sauves le peuple qui s'humilie. » Tu sauves le peuple qui s'humilie. Qu'est-ce que c'est le salut, sinon que de mettre sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'humilité de reconnaître, d'accepter que je ne peux rien faire pour le salut et que le salut ne dépend que de Jésus-Christ. C'est pour ça que la foi et l'humilité sont interreliées. On ne peut pas les séparer. Quand j'ai l'humilité de réaliser et d'accepter que je n'ai rien à offrir à Dieu de moi-même, qui ne m'est pas donné, parce que les offrandes que je donne, quand je donne aux pauvres, quand j'aide quelqu'un, Dieu m'a donné la santé pour travailler. Dieu m'a donné l'argent. Tu disais les nations qui sont plus riches, les nations qui sont plus pauvres. C'est toutes des choses que Dieu nous donne. Qu'ai-je que je n'ai pas reçu? Alors, quand je fais le monde, quand je fais le bien, quand je suis gentil avec quelqu'un, même si ça ne va pas bien, c'est parce que Dieu me donne la capacité de faire ces choses. Et c'est l'humilité qui me fait le reconnaître. Sans humilité, je vais m'exalter, je vais penser que toutes ces choses-là dépendent de moi. Mais non. Hein? Tu sauves le peuple qui s'humilie. Le salut, même de nos âmes, dépend de notre humilité, de notre capacité à affirmer que je ne peux rien faire sans lui, dans Jean 15. Rien. Il me donne la santé. Il me donne la respiration, il me donne l'énergie, il donne la gravité, il donne tout, que je puisse juste bouger. C'est pour ça que dans Acte 17, Paul va dire, on a le mouvement, l'être et la vie en lui. Tout l'être, tous les êtres humains de la terre. S'ils font quoi que ce soit, c'est parce que Dieu le leur permet. On peut vivre en lui. Maintenant. Et ça, c'est l'humilité qui nous le fait reconnaître. Et c'est de cette humilité-là qu'on voit à travers, comme fil à travers toutes les Écritures. Et on peut le voir. Prenez par exemple dans 2 Rois, chapitre 22. Il va dire au roi, « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que je prononçais, ce que j'ai prononcé contre celui et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Parce que tu as fait ces choses-là, je t'ai entendu. Parce que tu t'es humilié, je t'ai entendu. » C'est pas pour rien que dans Jacques, Jacques va dire, inspiré par le Saint-Esprit, il va dire, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a une condition à la grâce, pareil. C'est l'humilité. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'orgueilleux ne recevra jamais la grâce de Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Il est capable tout seul. C'est correct, je suis capable. Non, on n'est pas. Sans Dieu, on ne peut pas rien faire. Et par contre, l'humilité qui reconnaît notre entière dépendance à Dieu va me faire faire des exploits avec Dieu, par exemple. Il y a trop de monde. Ton armée est trop grande. Souvenez-vous de ça dans l'Écriture? C'est où ça? Dans Juges 16, c'est à qui il parle? À Gédéon? Vous vous souvenez de l'histoire de Gédéon? Ton armée est trop grande. Il y avait trop de monde dans l'armée. Il a réduit ça à 300 personnes, 300 soldats. Il a fait des exploits. Pourquoi Gédéon avait été choisi au départ? Il était petit, il était faible, il était humble. L'humilité. Reconnaître notre propre faiblesse, notre propre incapacité. Celui qui manque de sagesse, l'Écriture va dire, qui la demande à Dieu. Le mot « manque » dans ce verset-là, c'est pas « il en manque juste 80%, tu sais, il y en a 80%, il en manque 20%, je manque un peu de sagesse, Seigneur. » Non, c'est quelqu'un qui est dépourvu de toute sagesse. Quelqu'un qui réalise qu'il n'y a pas de sagesse et qui s'attend à Dieu pour cette sagesse-là, Dieu donne. Dieu donne librement et libéralement. Ça veut dire qu'il donne beaucoup, énormément. Vous savez, l'humilité, c'est un gage. C'est pour ça que les proverbes vont dire, c'est un petit peu le verset thème de, de, d'aujourd'hui, les proverbes vont dire « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est le fruit de l'humilité. Évidemment, l'humilité, la crainte de l'Éternel, ça aussi, c'est interdépendant. Parce que si je suis humble devant Baal, ça ne sert à rien. Mais si je suis humble en disant, « Hey, moi, je ne suis pas capable, Dieu. » Et que c'est l'Éternel vers qui je me tourne, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas pour rien que dans Philippiens chapitre 4, Paul va dire, « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » C'est à lui la gloire. C'est à lui la gloire. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien à faire? Non. Déjà, s'humilier, c'est le début. Mettre sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, c'en est un autre. Quelqu'un qui s'humilie puis qui ne saisit pas la grâce que Dieu lui offre, il a passé à côté. Il a passé à côté. Mais quand tu t'humilies puis tu reçois l'offre gratuite du don de la vie éternelle, en plaçant ta confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, là, à ce moment-là, et après avoir cru, Dieu te régénère, Dieu te donne une nouvelle vie, tu marches en nouveauté de vie, mais comme on a cru, comme on doit marcher dans cette humilité qui réalise que je ne peux pas rien faire sans Dieu. Vous voyez comment l'humilité est un lien pour l'être humain? C'est un lien. C'est un lien qui est important, c'est un lien qui est fondamental. On doit réaliser que sans Dieu, on ne peut rien faire. Psaume 25, 9, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Pourquoi vous pensez que celui qui manque de sagesse la demande, il enseigne aux hommes? C'est une promesse de Dieu, il enseigne aux hommes. Quand on se tourne vers l'Éternel, quand on a ce cœur contrit, quand on dit, « Hey Seigneur, moi je sais pas quoi dire. » Encore, quand je venais prêcher ici ce matin, puis je cherchais à dire, je ne sais pas quoi dire, je n'ai rien à dire. C'est pas toi qui me permets de parler. C'est pas toi, Seigneur Dieu, qui m'enseigne, qui me dit, hey, Seigneur Dieu, je ne sais pas quoi dire. Aide-moi. Aide-moi. Ça fait depuis, je ne sais pas moi, 87, 88 que je prêche. J'ai prêché des centaines de messages. Mais à chaque fois, j'arrive devant Dieu, je dis, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Parce qu'on ne peut jamais et on ne doit jamais arriver au point dans notre vie chrétienne où on pense qu'on est arrivé à un niveau X. On n'arrive jamais à un niveau X. On est toujours les petits gars de Dieu, puis la petite fille de Dieu, puis on est toujours dépendant de sa grâce, dépendant de son amour, dépendant de sa bonté, dépendant de sa miséricorde. On est dépendant de Dieu. On n'arrivera jamais au stade où on n'est plus dépendant de lui. Comprenez? On doit accepter ça et on doit embrasser. Moi, je suis content de dire je suis dépendant de Dieu parce que ça ne dépend pas de moi. J'ai ma contribution à faire, je l'ai souvent dit. Hein? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, on est co-ouvrier. Paul va dire que les co-ouvriers avec Dieu, sunergon, ça veut dire que mon œuvre se met avec l'œuvre. J'apporte ma contribution dans l'œuvre. Dieu apporte la sienne. Décidez quel qui vaut plus dans la balance. J'apporte ma contribution. Dieu demande que j'apporte ma contribution. Je vous ai déjà raconté l'histoire quand je me vois dans une photo avec mon père. Je marchais à peine. Puis mon père faisait du vol à voile. Vous savez, c'est quoi du vol à voile? C'est avec un planeur. Puis il fallait pousser le planeur. Puis moi, je suis là. Puis j'aide mon père à pousser le planeur, tu comprends-tu? J'ai 3 ans. Puis je pousse, puis il y a 2-3 autres gars, des costauds. Je ne suis pas sûr que mon père aurait pu non plus pousser le planeur. Puis fait que là, il pousse le planeur, puis moi, je suis là, puis j'aide. J'ai apporté ma contribution. Elle n'était pas énorme, mais j'ai apporté ma contribution. Oui. Il y avait juste mes petites mains qui étaient sur le bord du planeur, puis qui poussaient. J'ai apporté ma contribution. Alors, on est un peu comme ça devant Dieu, hein? On apporte notre contribution. Mais c'est quoi, lui, Seigneur, la contribution? Tu serais bien plus capable que moi de prêcher, Seigneur. Non, non, tu vas venir. Oui, mais c'est toi qui prêches, il n'y aura pas d'erreur. Moi, si je prêche, je vais en avoir plein d'erreurs. Oui, mais c'est toi que je veux qui prêche. Hein? Fait que, on est dépendant de Dieu. On doit s'attendre à Dieu. Notre service va être incomplet, notre service va être imparfait. Dieu a compassion, nous dit les prophètes, de son fils. Dieu a compassion de nous comme un père a compassion de son fils qui le sert. Pourquoi est-ce que le père aurait compassion de son fils qui le sert? Ce n'est que le service est imparfait. Notre Dieu qui est au ciel, qui fait ce qu'il veut, il a créé les cieux et la terre, il a créé toutes les armées célestes. Je veux dire, prenez un ange le plus petit, je ne sais pas s'il y a des grandeurs d'anges, je ne sais pas s'il y a des taupins et des moins taupins chez les anges, mais prenez le plus faible des anges, amenez-les aux Olympiques une journée. Qui c'est qui va gagner une médaille? Tu nous à lever, les hommes, on est là, ils essaient de lever 300, 450. Un ange, les Écritures, il détruit une armée complète. Hein? L'ange, il est là. Mais non, mais ce n'est pas aux anges qui demandent ça, c'est à nous autres. C'est à nous autres. Puis nous, on est là avec notre faiblesse, avec nos lacunes. Un petit virus microscopique passe dans le coin. Un enfant m'a toussé dessus. J'en ai pour 5 jours à terre. Incapable de me relever avec la fièvre. Un petit virus de rien me met à terre. On est faible. Mais Dieu dit, c'est à toi que j'ai donné ça. C'est à vous autres que j'ai donné ça. L'humilité précède la gloire. Quand on réalise ce que Dieu nous donne, quand on réalise la grandeur, la bonté, la grâce, la miséricorde de Dieu à notre égard, alors que quand on se regarde dans le miroir le matin, on est loin de se dire, ben je le mérite. Hein? On ne mérite rien, pas tout. J'ai beau donner un peu de charité à quelqu'un, ça mérite quoi? Ça mérite que la personne va avoir de quoi manger ce soir. Dieu est bien content. En balance, ça pèse quoi? Pas grand-chose. Mais ça pèse pour la personne à qui j'ai donné, par exemple. Ça pèse pour l'Église à qui je donne, pour les gens à qui je fais du bien, ça aide. Quand je fais un sourire à quelqu'un qui en a besoin, ça aide, ça fait quelque chose. Mais dans la balance, hey! C'est pour ça qu'il n'y a rien de ce qu'on fait qui peut nous sauver. L'humilité, ce n'est pas l'humilité qui me sauve. Ce n'est pas la foi qui me sauve. La foi, c'est simplement la condition que j'ai rencontrée, puis que Dieu dit, OK, je te sauve parce que c'est Dieu, le Dieu souverain, le Dieu qui est exalté au-dessus de toute chose, qui lui, unilatéralement, de son propre gré, de son propre chef, personne n'y a dit, qu'est-ce que tu fais? A dit, bien, c'est cette condition-là que je veux placer sur le salut. C'est ça qui cite dans 1 Corinthiens. Il a choisi les choses humbles, les choses faibles. La foi, c'est faible, parce que la foi, ça repose sur la puissance d'un autre. La foi, là, c'est rien en soi-même. C'est comme, vous savez, les boyaux d'incendie, là, vides, qu'il n'y a rien dedans, c'est plat, tu peux rouler là-dessus, c'est plat, ça n'a aucune tenue. Ouvre la bonne fontaine. Qu'est-ce qui se passe? Paf! Tu ne tiens pas le bout de ton chat, ça te remolle dessus. Hein? Tu le tiens. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui donne la force au tuyau? Ce n'est pas le tuyau d'incendie, c'est ce qui sort. C'est ce qui remplit, ce qui donne la force, la forme. Mais la foi, c'est ça. La foi en elle-même, c'est rien. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne la puissance à la foi. C'est pour ça que la foi, ce n'est pas une télékinésie chrétienne. La foi en elle-même, ça n'a aucune puissance. La foi, ça témoigne de l'humilité que je réalise que je n'ai rien à offrir à Dieu, que je m'attends à lui et que lui, parce qu'il est fidèle à sa parole, va accomplir ce qu'il a promis. Comprenez? Allô? OK. Bon. C'est pour ça que l'humilité, c'est ce fil conducteur. Ce fil conducteur dans les Écritures qui nous rappelle. Hein? Pas pour rien, dans Proverbe 3, 34, la parole de Dieu dit, il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce à qui il veut. À qui il a choisi de faire grâce aux humbles. C'est lui qui est boss. Tu sais, c'est comme la parabole. Vous savez, les ouvriers là, qui s'étaient présentés le matin de bonne heure, se sont fait engager. Puis après ça, une heure plus tard, bien, il y en a d'autres qui sont arrivés. Il y en a qui sont arrivés vers la fin de la journée. Le patron est passé, il les a pris. Tu sais, puis à la fin, bien, les gars qui avaient commencé le bonheur, ils s'attendaient à avoir toute une paye. Puis ils se sont dit, hey. Là, ils commencent par les plus tardifs, dans la même paye que. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai travaillé toute la journée, puis lui, il a travaillé 2 heures, 1 heure ou 5 minutes, je ne sais pas. Puis tu te donnes le même montant qu'à moi. Tu n'exagères pas, c'est un petit peu insultant. Mais est-ce que tu vois le mauvais œil que je fasse de mon bien, ce que je veux, puis que je fasse du bien à cette personne-là? C'est à lui, cet argent-là. Il peut en faire ce qu'il veut. S'il veut en donner à la personne qui est arrivée à 5 minutes plus tard, à 5 minutes de la fin, ou à celui qui a commencé à 5 heures du matin, il fait ce qu'il veut avec son argent. De la même manière, Dieu qui est Dieu fait ce qu'il veut avec sa souveraineté et il décide de donner gracieusement aux hommes, à ceux qui disent, moi, j'ai rien, je suis un mendiant. Je suis un mendiant qui attend de toi, Seigneur. C'est pour ça que l'humilité, c'est si important. Dans Sophonie 2:3, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Humbles. Matthieu 18:4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Humble, humble, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps dans les Écritures. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse va être élevé. Dieu regarde, Dieu cherche, Dieu veut. C'est ce qu'il désire, Dieu. C'est ce qu'il veut. Il cherche des personnes qui admettent, qui acceptent, qui réalisent qui ont des grosses lacunes, pour ne pas dire plus, et qui s'attendent à lui. C'est pour ça que Paul va dire que la puissance de Dieu est manifeste par sa faiblesse. Pourquoi? Parce que c'est dans la faiblesse avouée de Paul que peut se manifester l'omnipotence de Dieu. C'est dans la faiblesse avouée de Paul que peut se manifester l'omnipotence de Dieu. Parce que Paul est faible, l'omnipotence de Dieu peut transpirer, peut passer au travers. Puis personne ne va dire, ah, c'est de la faute à Paul. Non, non, c'est de la faute à Dieu. Tu vois, regarde le gars. Tu vois bien que c'est de la faute à Dieu. c'est ça. C'est, quand tu me regardes, c'est à cause de Dieu. Tu comprends? C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ça, cette attitude-là, qu'il faut cultiver. Cultivons cette attitude de reconnaître et d'admettre que c'est de la faute à Dieu. C'est sa faute. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot « faute », là, mais c'est sa responsabilité. Moi, j'ai ma part de responsabilité aussi. Hein? J'ai mes grosses parts de responsabilité. Responsabilité, ça veut, le mot veut dire « capable de répondre à », étymologiquement, qui répond à. Responsable, en anglais « responsible », able, capable de répondre. C'est ça que quelqu'un qui est, je suis responsable, j'ai une reddition de compte, je dois rendre compte de mes actes. Je dois rendre compte de ce que je suis, de qui je suis. Parce que j'ai une reddition de compte à faire à celui qui est juge de tout. Je rends compte, je suis responsable, en bien et en mal. En bien et en mal, pas juste en mal, en bien et en mal. Je rends compte. Et donc, je suis responsable de justement de m'humilier sous la puissante main de Dieu. Parce que vous savez une chose, à la fin, ceux qui vont s'être humiliés vont se tenir debout. Ceux qui vont avoir résisté vont se tenir couchés à terre, humiliés par Dieu lui-même. Lui, il va les abaisser. et ce sera un jugement. Vous savez, l'humilité, quand Dieu va décider d'humilier quelqu'un, c'est un jugement. Ça, il vaut mieux s'humilier soi-même, se soumettre à Dieu, se soumettre au fonctionnement qu'il a des choses, se soumettre à la parole de Dieu, marcher dans ce qu'on voit. Et si je ne comprends pas quelque chose, il y a plus de bénéfices de dire, bien, fort à parier que je n'ai pas la sagesse que ça prend pour comprendre. Il n'y a pas de chance. Si Dieu me dit quelque chose et que je ne comprends pas, je suis mieux d'obéir avant et de comprendre après. C'est une meilleure idée. Parce que sinon, il y a toujours les conséquences. J'ai toujours une reddition de compte à un moment donné. Je dois rendre compte de ça. Puis c'est pour ça que dans Ésaïe 43, 10, ça dit quoi? Afin que vous sachiez, afin que vous croyiez, que vous sachiez, que vous compreniez, que vous sachiez, que vous croyez, que vous comprenez. Bon, allez, t'as pas besoin. Un petit peu. En tout cas, ça finit par comprendre. Dans Ésaïe 43, 10. Ouais. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Alors, voyez-vous l'ordre ici? Savoir, croire, comprendre. Savoir, tu ne peux pas croire quelque chose que tu ne sais pas. Mais l'humilité de la foi, tantôt je vous ai dit que la foi et l'humilité étaient inséparables. Quand je crois ce que Dieu me dit des choses, je vais pouvoir comprendre. Mais quand je résiste, quand je n'ai pas l'humilité de dire, bien, Dieu, c'est mieux que moi, je n'arriverai pas à comprendre. C'est pour ça que la parole de Dieu est si importante dans la vie d'un disciple, dans la vie d'un croyant, mais dans la vie d'un disciple. Le disciple, c'est celui qui place son oreille et qui veut écouter l'Éternel et qui écoute pour comprendre, pas pour questionner, mais pour apprendre. Pour apprendre. Alors, l'humilité, c'est ce fil de la Genèse d'Apocalypse qui nous montre comment est-ce que je peux marcher avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse à mon âme.
Ah. Même si j'ai fait une erreur en disant ça, non. Je sais. Pour au moins se corriger, mais
ah, oui.
je dis plein de niaiseries. Pasteur Patrice, c'est super. Écoutez, juste, je pensais à ça justement en conclusion du message. Je pensais à ça, je me disais, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est venu puis qui a besoin de dire à quelqu'un, je suis désolé, ou j'ai eu tort, ou je te demande pardon aussi. Dans Éphésiens 4, au verset, juste à la fin de 3 pour au début de 4, ça nous parle de se revêtir d'humilité, d'avoir des liens entre nous d'humilité et de douceur, et de se supporter mutuellement. Pensez à ça. Vous avez entendu un message aujourd'hui, puis peut-être vous allez retourner, puis vous allez dire, j'ai eu tort, je te demande pardon. Peut-être c'est face à Dieu. Peut-être c'est face à Dieu qu'on a besoin de dire, sais-tu, j'ai marché sans toi, j'ai pas dépendu de toi, j'ai marché un peu la tête haute. T'sais. J'ai besoin de dire, hey, pardon, Seigneur. Peut-être j'ai péché, puis je n'ai juste pas confessé à date avec Dieu. Puis aujourd'hui, j'entends ça, puis je me dis, hey, un des liens qui me lie à lui, c'est l'humilité. Dieu résiste à l'orgueilleux, puis il donne sa grâce à l'humble. Imaginez si vous ne seriez pas venu au rassemblement aujourd'hui. La semaine ne sera pas pareille. Ce ne sera pas pareil. Donc, c'est important de se baigner dans la parole de Dieu, de se laisser exposer comme ça, de se laisser se mettre en lumière et dire, est-ce que dans ma vie, il manque d'humilité face à mon Dieu ou face à quelqu'un? Donc, je suis certain qu'il y a des relations de couple, des relations parents-enfants, peut-être même avec un ouvrier au travail ou peu importe. Sais-tu quoi? J'ai eu tort. Je m'excuse. Allez, on va sortir un peu plus humble, tu sais. Quelqu'un a déjà dit, il y a deux types d'orgueilleux. Il y a ceux qui sont orgueilleux, qui le savent, puis il y a ceux qui le reconnaissent. Et qui ne savent pas, puis ceux qui le reconnaissent. Bien, que Dieu nous humilie comme ça, ou qu'on s'humilie plutôt devant Dieu. Ça, c'est mieux, hein? Non, ça pas. Puis justement, parlant d'humilité, c'est la condition pour accepter le don de la vie éternelle, parce que l'humilité est en train de dire, elle se place devant la croix, puis elle dit, je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même, et je reconnais que ce que tu as fait est suffisant pour me sauver et me donner la vie éternelle. Je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je t'ai désobéi, que j'ai péché devant toi, puis que je ne peux pas me tenir juste devant toi, et que j'ai besoin de ton secours. Et donc, on se tourne vers la croix, puis on reconnaît qui Jésus est. Il est le Dieu d'éternité, fait homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la punition que tu méritais pour toutes tes offenses, puis il est mort sur la croix pour toi. Ça prend de l'humilité parce que, dans le fond, à combien de fois vous avez entendu une personne qui fumait, qui disait « J'ai tellement investi là-dedans, si tu penses que je vais arrêter? » Il y en a qui disent « J'ai tellement été une bonne personne, j'ai tellement essayé d'être une bonne personne pour être sauvé, pourquoi que là, je ne serais pas assez suffisamment bon? » Ça prend de l'humilité de dire « Sais-tu quoi? Je suis peut-être bon, mais je ne suis pas tout le temps bon. Il y a des choses bonnes que j'ai faites, mais elles sont insuffisantes pour acheter le prix de mon âme. Et les péchés que j'ai faits sont payés par lui. Il faut que je reconnaisse puis je m'humilie devant lui. » Alors, si c'est ce que vous voulez faire, vous êtes sur l'enregistrement, peut-être sur Internet, et vous écoutez ce message-là, eh bien, ça nous amène à courber la tête puis à réfléchir, à entrer dans nous-mêmes puis dire, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour vivre une vie qui plaît à Dieu? Et sincèrement, si votre conscience fonctionne, la réponse devrait être, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous ne devriez pas être comme l'homme qui se repère, qui pointait vers l'autre et disait, Seigneur, merci que je ne suis pas comme lui. Merci que moi, je ne suis pas un débauché. Merci, moi, que je ne suis pas une mauvaise personne, c'est comme lui. Vous devriez être plutôt comme l'autre qui était là puis qui se frappait à la poitrine. Il n'osait même pas lever la tête et disait, il manque quelque chose. Je suis un pécheur, mais aie pitié de moi. Si le Saint-Esprit vous convainc, puis votre conscience vous convainc que vous n'avez pas encore fait assez, c'est une belle chose, parce que vous êtes sur le chemin du salut. Parce que vous êtes en train de reconnaître que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Puis vous pouvez placer votre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Pas en vous, puis en lui, mais en lui seulement. Et en fermant les yeux ensemble, en courbant la tête, j'aimerais vous conduire à faire cette prière-là pour vous humilier avec moi devant Dieu. Comment est-ce qu'on accepte le Seigneur? Bien, on s'humilie, on reconnaît qu'on est pécheur, on reconnaît que Jésus est le seul sauveur du monde, le seul Dieu. On l'accepte qu'il est ressuscité des morts pour nous préparer une place, qu'on va habiter avec lui, dans ce qu'on appelle le tabernacle céleste. Alors, si tu veux faire la paix avec Dieu, reconnaître ton état de pécheur puis ton besoin d'être sauvé, on va le dire ensemble à Dieu. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste répéter, une formalité, puis là, Dieu fait un crochet dans son livre. Non. Il regarde si tu crois, qu'est-ce que tu es en train de lui dire. C'est toi, puis lui. Mais il a demandé à l'Église, nous, faibles créatures, gens imparfaits, dont le service est imparfait, il nous a demandé d'aller par tout le monde, puis de le dire. Puis ceux qui vont croire qui il est et ce qu'il a fait, Jésus, ils vont avoir la vie éternelle. Alors, si tu veux, fais cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je n'ai pas en moi la capacité de me sauver. C'est toi-même qui m'aides à respirer. Et c'est toi qui es venu sur la terre. Tu es Dieu fait homme. Tu es mort sur la croix pour payer la dette de mes péchés et m'accorder la vie éternelle. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me préparer une place. Je veux te suivre. Je veux te connaître. Amen. Seigneur, si quelqu'un a fait cette prière pour la première fois, je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses te révéler à lui ou à elle, Seigneur. Je te prie qu'il puisse commencer à manger du pain de la vie qui est ta parole, Seigneur Dieu, puis que cette vie qui est en Jésus puisse vivre en lui, en elle, Seigneur. Merci que tu nous offres gratuitement la vie éternelle à cause de Jésus. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, un message qui nous place face à nous-mêmes, un message qui nous fait réaliser que, ben, peut-être qu'on est au-dessus de nos affaires, on a besoin de rentrer un petit peu à l'intérieur et dire, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, j'allais dire chérie, mais là, vous avez tout pensé que vous êtes ma chérie. Fait que, pardonne-moi à mon épouse, ou pardonne-moi à mon enfant, ou je m'excuse, patron, de la manière que j'ai agi. Puis, vous allez voir, si vous le faites, vous ne serez pas réduit Au contraire, vous êtes vrai. Vous êtes vrai avec vous-même, vous ne compterez pas des mensonges à vous-même. Dans Jacques 1, il dit, quand vous écoutez la parole, bernez-vous pas vous-même en vous faisant toutes sortes de raisonnements, genre de, mais non, j'ai pas tort. Le but, c'est pas de ne pas avoir tort, c'est d'être vrai. C'est de laisser mettre en lumière par l'Évangile, puis recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous, puis qui nous délivre tranquillement. Fait que vous allez sentir plus vrai, vous allez sentir des vraies relations autour de vous, puis vous allez considérer les autres plus importants que vous-même en vous humiliant comme ça. Fait que faites-le. Puis réalisez que si vous n'auriez pas été ici ce matin, votre semaine ne sera pas pareille. Vous pouvez aussi honorer, chérir les rassemblements tant que vous pouvez. Des fois, on ne peut pas à cause du travail, il y a des circonstances qui nous empêchent de nous rassembler, mais réalisez ce matin. On oublie ça, souvent on part, on s'en va dans chacune de nos occupations. Réalisez que ce que vous avez entendu ce matin change votre vie. Puis que si vous ne l'auriez pas eu, bien, vous pourriez peut-être continuer à être endurci. Dans Hébreux, il dit, veillez les uns sur les autres, puis restez dans la parole régulièrement, autant longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que personne ne s'endurcisse. Aujourd'hui, la parole est venue, pour certains d'entre nous, casser des coquilles qui entouraient notre cœur puis nous empêchaient de ressentir ou d'être humble. Puis elle est venue faire ça, puis ça va faire quelque chose de beau. Chérissez la parole de Dieu, chérissez les rassemblements. Puis si le message vous a fait du bien, allez voir le pasteur qui a prêché, allez lui serrer la main, dites « ça m'a fait du bien, merci » ou « je vais faire quelque chose ». Nous autres, les pasteurs, on ne veut pas nécessairement avoir fait un message « hot ». On veut avoir fait un message qui va faire quelque chose, qui va produire quelque chose. Que Dieu vous bénisse, puis je vous souhaite un bon dimanche, puis restez avec nous pour dîner si vous pouvez.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.